Donc Yannick Augore, je suis aujourd'hui maraîcher bio, comme on dit, pour se distinguer de l'industrie chimique, et éleveur de brebis, petit troupeau d'une vingtaine de bêtes, éleveur de cochons, de lapins, enfin un petit élevage diversifié autour du maraîchage. Ça fait depuis 3 ans, du coup j'étais avant une dizaine d'années seulement éleveur de brebis, jardinier, maçon, couvreur. Et avant, à fin des années 90, salarié de la Confédération Paysanne, animateur salarié. Quand on est parti dégoûté de ce syndicalisme qui se fondait dans les rouages de l'administration, et tenté d'être paysan en bricolant comme je pouvais dans ces dédales de l'administration pour ne pas perdre la niaque et l'envie d'élever des brebis autrement que pour produire de la viande sur le marché de masse. Quoi. Voilà, du coup, chômeur paysan depuis 15 ans bientôt. Et voilà, mais avec aucune envie de lâcher ça et plutôt avec l'envie de bousculer un peu la passivité ambiante du milieu bio notamment, parce que c'est... Même si l'agriculture bio ne se définit que par un contrat, un cahier des charges purement contrôlé par l'État, j'ai aucune envie de m'y reconnaître, mais il faut quand même constater que c'est à cet endroit-là qu'on rencontre les plus petits paysans et ceux qui sont encore un peu plus épris d'un esprit de bricolage que j'estime être à même de contrecarrer à minima la puissance des empires agroalimentaires aujourd'hui. Et de l'administration. Du coup, je désarme pas sur l'idée qu'on soit un peu moins seul à être énervé dans la situation présente du monde paysan.
Nous allons partir de là. D'un maraîcher qui bricole, comme il le dit lui-même. D'un travailleur de la terre qui nous parle de l'administration de l'alimentation de masse. Administration, parce qu'il n'est pas question de parler d'une sorte de fatalité technique qui serait venu répondre à la nécessité de nourrir la planète. Il sera question de choix concrets, d'organisation, d'orientation, de politique. Parce que raconter ce qu'est devenu le travail de la terre et la vie paysanne, c'est aussi parler de l'État, de l'administration, des lois et des dispositifs qui incitent à la production de masse, à la conformation industrielle de l'activité, avec ce qu'elle comporte de pollution, certes, mais aussi d'exploitation pure et simple, des humains comme des bêtes. Si c'est l'explosion d'une usine d'engrais qui nous sert de point de départ, il est clair qu'azote fertilisant, AZF, est plus que ça. C'est un élément important de la transformation profonde de notre monde par une logique de production de masse, mécanisée, qui broie les humains au propre comme au figuré. Et que ce soit après la première grande boucherie industrielle, la guerre de 14-18, que cette logique prend son essor n'a rien d'un hasard. C'est dans les guerres que la logique industrielle s'épanouit et la guerre économique qui les contient toutes fait office de mère des batailles, avec comme aiguillon la production de valeur et le travail aliéné. Dans ce monde industriel, pour le travailleur et la travailleuse, le but de son activité est la conservation de son existence individuelle. Son action réelle ne devient plus qu'un moyen. Nous ne vivons plus que pour obtenir la possibilité de vivre. Et plus les moyens de produire ce qui nous sert à nos subsistances se perfectionnent, se complexifient, deviennent efficaces, et plus nous, comme personne, perdons en puissance. C'est comme disait Marx, la domination universelle de la chose sur la personne, du produit sur le producteur et la productrice. Mais ne nous emballons pas et repartons du début. C'est quoi l'agriculture industrielle ?
D'un point de vue technique, enfin en tout cas comme porte d'entrée pour définir l'industrialisation de l'agriculture, c'est quand même que c'est un système qui organise la perte d'autonomie du paysan. Quand on peut encore parler de paysan jusqu'au début du XXe siècle, la production d'énergie nécessaire à faire tourner une ferme, elle est fabriquée sur la ferme elle-même. C'est-à-dire que les animaux de trait, l'humain lui-même, se nourrissent des produits fabriqués sur la ferme. Dès l'instant où il met le pied dans la mécanisation, dans ce qu'on appelle les intrants c'est-à-dire pesticides engrais, bah, ils rentrent dans une économie entièrement structurée autour de l'économie pétrolière. Quoi. Et ça, le basculement qu'on peut voir massif à ce endroit-là, il est dans les années 20, entre les deux guerres, aux États-Unis, et notamment dans un processus de recyclage de l'industrie de l'armement. Enfin, les engrais sont directement le sous-produit de l'industrie des explosifs qui a pris un essor incroyable pendant la Première Guerre mondiale. Et que la manière de pas abandonner ce complexe industriel fabriqué spécifiquement pour la guerre, ça a été d'en trouver comme débouché l'industrie des engrais, quoi. Qui est déjà là une porosité énorme entre le complexe militaro-industriel et l'agriculture, quoi. Et ça se joue à la fois sur les engrais, sur... Pour les pesticides, je pense que la porosité, à mon avis, elle est entre ce complexe militaire et agricole, c'est plus après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale que ça va jouer, notamment sur Bayer et Monsanto qui recyclent tous les gaz qui ont pu être utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'industrie agricole. Mais la Première Guerre mondiale, elle va vraiment apporter... les engrais et les tracteurs et la motorisation comme élément de révolution agricole. Quoi. En 10 ans, les États-Unis vont passer d'une économie agricole entièrement basée sur la traction animale à une économie agricole entièrement structurée autour du tracteur. Et que ça a des effets ricochets colossaux, en fait, ce phénomène industriel. En 10 ans, c'est 70%. Des terres agricoles américaines qui étaient consacrées à nourrir les animaux de trait, qui n'ont plus cet usage-là. Et du coup, il faut fabriquer un nouvel usage à ces terres-là. Et ça va déboucher, du coup, sur ce fameux or vert, quoi, qu'est le soja, avec l'élevage hors sol. Dans cette période-là, c'est là que s'expérimente l'élevage concentrationnaire hors sol, à base de soja. Et que assez vite, malgré les tâtonnements délirants de cette industrie, ils arrivent à faire survivre ces animaux dans ces conditions. Et ça va être la base de l'agriculture mondiale à partir de ce moment-là. Elle va se propager à une vitesse grand V partout, d'abord en Amérique latine et ensuite en Europe. En Europe, il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir une pénétration conséquente de cette industrie.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps.
Avant les années 50, je pense que c'est compliqué, enfin c'est torne la réalité que de parler de paysannerie française. Là, en fait, je pense que la naissance d'une paysannerie qu'on peut dire française, c'est pour un bout de l'agriculture, c'est l'explosion du monde, enfin de l'économie céréalière qui va commencer dans la Beauce et dans la plaine parisienne, dans le grand bassin parisien, où là, en fait, en effet, ces gens-là vont s'industrialiser dès l'entre-deux-guerres et vont imposer un mode de production en céréales partout, quoi. En fait, ils vont imposer des prix tellement dérisoires que si tu veux suivre, si tu veux vendre tes céréales, en fait, tu dois te mettre au diapason de cette forme de production très technologique et qui fait appel aussi à beaucoup de main-d'œuvre. Mais pour le reste, enfin, cette polyculture élevage qui fait la masse de l'agriculture française, elle est très disparate en fonction des territoires, parce qu'il n'y a pas un marché national et encore moins international des denrées alimentaires. En restant dans un circuit local, on répond d'abord à des problématiques locales, et du coup les modes de production restent à la fois liés aux conditions climatiques, de terrain, d'agronomie, et à une demande locale de consommation, d'alimentation, et que du coup l'agriculture bretonne n'a absolument rien à voir avec, très peu à voir avec l'agriculture de montagne, avec l'agriculture du sud-ouest. Enfin, c'est des logiques totalement différentes. On va être beaucoup plus sur des logiques déjà, enfin, dans des régions type sud-ouest, sud-est, d'élevage déjà assez spécialisé, très adapté à des terrains rugueux, type les brebis ou les vaches, ou des certaines vaches de races de vaches très adaptées à des zones peu productives. Alors qu'en Bretagne, notamment, on est sur des zones plutôt productives, pas très chaudes, mais où l'herbe pousse très bien, mais les céréales aussi. Et du coup, on va rester sur un système où les gens font un peu de tout sur leur ferme, en mettant l'accent en fonction des régions, plus sur telle céréale parce qu'elle marche mieux là, plus sur telle race de bêtes en fonction de leur adaptation au terrain. Et il y a une multitude de races pour dire qu'il n'y a pas de paysannerie française, c'est qu'il y a des races de brebis, de vaches, de chèvres, quasiment chaque région, de cochons, et que du coup il n'y a aucune homogénéité. Et qu'encore, enfin, avant ce dispositif d'industrialisation et d'homogénéisation de l'agriculture, la productivité des animaux, par exemple, si on ne prend rien que les races des cochons, en fonction des territoires, ça n'a rien à voir. Enfin, ça peut être d'un facteur 1 à 10, sans qu'en fait celui qui a une race moins productive soit impacté par la productivité supérieure d'une race à 500 km ou à 800 km de chez lui. Mais encore sur une économie plus localisée. Et ça donne une certaine richesse à l'inventivité et au bricolage des paysans, qui, dans cette logique-là aussi, sont forcément face à une certaine autonomie, ne serait-ce parce que ils ont à maîtriser les éléments techniques qui sont à portée de main, liés aux variétés et aux races qu'ils utilisent et avec lesquelles ils vivent au quotidien. Et en même temps, l'autonomie paysanne d'avant les années 50, elle est très ambiguë. Il y a eu d'ailleurs des mouvements intéressant autour de la coopération agricole, en fait, qui incarnait justement ce désir d'autonomie à plusieurs reprises. C'est-à-dire, concrètement, la coopération agricole, c'était l'idée qui a essentiellement germé au début du XXe siècle, que les paysans s'associent localement pour répondre à leurs besoins, qui étaient en matériel, même si on n'était pas encore sur du matériel industriel, du matériel sur l'approvisionnement en semences, en engrais déjà quand il y en avait besoin, et qui s'organisait aussi pour assurer l'éducation des enfants, pour assurer un minimum de sécurité financière sous forme de mutuelle en cas d'aléas climatiques, d'accidents. Enfin, dès l'après Première Guerre mondiale, il y a un mouvement coopératif comme ça qui prend corps, et notamment en Bretagne, qui essaye de structurer, de construire l'autonomie paysanne à des échelles locales. Mais ça, c'est les apparences, où il y a en effet une certaine forme de réalité d'autonomie qui se construit localement. Mais au fond, on sait très bien que dans les années 20-30, ces coopératives agricoles, notamment la coopérative de Landerneau, allaient non pas entre les mains des paysans eux-mêmes, mais c'est les aristocrates qui règnent sur les territoires, qui les tiennent, ces coopératives, notamment le Hervé Butte de Guébriand, qui est donc le président de la COP de Landerneau dans le Nord Finistère, et la figure la plus influente du monde aristocratique breton. C'est lui qui tient sous tutelle ces paysans, et c'est d'ailleurs lui qui va devenir ministre de l'agriculture sous Pétain. Et en fait, du coup, il y a toujours une fausse autonomie, enfin, il y a un discours qu'on raconte, et l'agrarisme, cette idéologie réactionnaire des années 30, exhorte et brosse dans le sens du poil cet esprit de l'autonomie et de la liberté paysanne, mais c'est un discours qui est fabriqué par les aristocrates eux-mêmes, quoi, en fait, qui tiennent les paysans entre leurs mains, à la fois par ces coopératives et par la propriété foncière, en fait, et qu'au fond, l'autonomie qu'on peut voir rétrospectivement du paysan, en effet, c'est qu'il n'était pas dépendant d'une chaîne d'interdépendance économique qui le lie aujourd'hui aux banques, à l'industrie pétrolière. Certes, l'économie locale éviter cette dépendance, mais il était complètement pris et intégré également dans une dépendance à l'égard des pouvoirs locaux qui étaient tenus par les aristocrates et le clergé. Au XXIe siècle, on regarde l'autonomie paysanne comme ça, avec un certain attrait, mais il faut la relativiser, quoi. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'une économie de l'époque dont on peut retrouver une source d'inspiration, mais elle ne peut pas être en elle-même un idéal à atteindre, puisqu'elle était déjà prise dans un système qui exploitait le paysan.
Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps.
Il y a eu une manière très nette, deux agricultures en France, à partir justement de l'entre-deux-guerres. Et je pense qu'on peut encore oser dire qu'il y a encore deux agricultures entre le monde des céréaliers, on va dire même le monde de la production végétale et le monde de la production animale. L'élevage aujourd'hui, le monde de l'élevage est complètement dépendant de l'économie céréalière et du coup quasiment entre les mains des gros industriels céréaliers, quoi. Et c'est pas pour rien que le président de la FNSEA, c'est Xavier Belin aujourd'hui, gros céréalier de la Beauce, et président du groupe Avril, qui est le plus gros groupe agro-industriel français. Pour moi, la date clé, en fait, c'est le basculement dans ce processus d'industrialisation et d'une économie capitaliste en agriculture, c'est 36. C'est un gouvernement de Front populaire qui a donné un coup d'accélérateur à l'industrialisation de l'agriculture en venant en aide de manière très ciblé aux céréaliers alors c'est assez complexe quand on rentre dans ces détails de l'économie agricole, mais en créant ce qu'on a appelé l'office du blé. Et grossièrement, l'office du blé, en fait, c'était un mécanisme de soutien public qui garantissait un prix minimal permanent aux céréaliers. Donc ces gens-là pouvaient, à partir de ce moment-là, jouer avec la surproduction, prendre des risques de surproduction et ne voir jamais leurs revenus baisser, parce qu'en cas de baisse des prix qui suit forcément un moment de surproduction, l'État apportait des aides nécessaires à faire remonter les prix. Et ça, ce moment-là, il est fondamental parce qu'il n'y a que les céréaliers qui vont bénéficier de ce dispositif, pendant que tout le reste de la polyculture élevage française vit encore sur un autre mode d'économie beaucoup moins administré et du coup moins industriel. Et que c'est vraiment ce prix garanti assuré aux céréaliers qui va les autoriser à rentrer dans un processus d'industrialisation énorme et d'investissement dans les technologies. Parce que jusqu'en 1936, certes l'économie céréalière est déjà une économie capitaliste, mais entièrement dépendant de la main-d'œuvre. On n'est pas du tout sur une mécanisation conséquente. Et du coup, c'est une main-d'œuvre payée 3 francs 6 sous, mais c'est une main-d'œuvre qui bosse pour eux, quoi. Et à partir, donc dans l'après-guerre, ces gens-là vont se lancer grâce à ce prix garanti dans des investissements colossaux de mécanisation. C'est les seuls qui vont vraiment investir dans le tracteur dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, pouvoir se passer de cette main-d'œuvre qui était quand même contraignante, même si elle était corvéable à merci et serviable, comme contraignante, là, ils entrent dans un processus d'industrialisation et ils entrent dans une autre logique économique, quoi. Et c'est à partir de là que se montent les énormes groupes d'industrie agroalimentaire. Ça montre à quel point l'administration est centrale en fait dans l'organisation de l'agriculture en France, et que ça, tout ce qui s'est passé dans les années 30 et en 36 avec l'Office du blé va se reproduire à la fin des années 50. Est-ce que De Gaulle, poussé par les jeunes modernistes du CNJA, les jeunes agriculteurs, à la fin des années 50, les mesures appliquées aux céréaliers, en fait, il va l'appliquer à l'ensemble de l'agriculture française, et notamment via la création de la communauté européenne, où du coup les dispositifs mis en place par les céréaliers vont à la fois être généralisés à l'ensemble des productions agricoles et à l'ensemble de l'Europe, en tout cas qui est constituée par la communauté économique en 58.
Il va bien, Joseph ? Oh oui, ça va toujours.
Et toi ?
Moi, je vois mes moutons et tout le reste.
Et qu'est-ce que tu vas faire ?
Joseph m'a trouvé du travail à Toulouse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes 10 hectares ?
Tu pourrais faire de l'élevage hors sol.
Moi, monter une usine à viande, à Salon. Et puis, mes bâtiments sont trop vieux. Il faudrait réparer, agrandir, donc faire un emprunt. Non, je ne veux pas mettre le doigt dans l'engrenage.
Tout État moderne a besoin de garder la main sur son agriculture pour alimenter les masses. Et le royaume du libéralisme, comme disent les gauchistes par ici, c'est-à-dire les États-Unis, l'agriculture est entièrement une économie administrée aussi. Et depuis le début, jamais l'État n'a perdu la main sur l'alimentation des masses. L'intervention publique est au moins équivalente aux États-Unis par rapport à l'Europe, quoi. C'est sur des mécanismes différents, mais en termes de manne financière par agriculteur, c'est largement autant, et c'est même plus. La question de l'économie, enfin de l'alimentation des masses, c'est avant tout une question de logistique, en fait, et que c'est l'administration de l'alimentation de masse qu'elle assure, en fait, c'est de la logistique d'alimentation des masses. Et en fait, les aides publiques suivent le chemin de l'optimisation de cette logistique. En fait, il y a eu à un moment donné, il fallait garantir les prix, après il fallait donner des aides directes aux producteurs. Maintenant, c'est des aides, ça va se transformer sur une forme d'aide directe aux groupes d'assurance, type Crédit Agricole et Groupama, via des contrats d'assurance risque qui sont en train de se mettre en place. Il y a des mutations, mais on voit bien que ça, à chaque fois, il s'agit d'optimiser la logistique de l'approvisionnement des villes, enfin de la masse des populations. Et que voilà, l'État a cette obsession et ne lâchera jamais. Enfin, c'est un leurre de penser que l'État libéralisera l'économie agricole comme on le dit aujourd'hui. Parce que ce qui est important de voir aussi, c'est que la différence entre le monde de la production animale et la production végétale, dans ce processus d'industrialisation, c'est que légumiers et céréaliers ont en commun, en s'étant organisés économiquement, donc en étant à la tête des coopératives, pour le dire ça simplement, ils sont rentrés directement sous la goulotte des fonds publics. C'est eux qui touchent directement les fonds publics dès les années 60, quand l'Europe met en place la politique agricole commune et une politique de soutien massive aux agriculteurs. Alors qu'ailleurs, dans le monde de l'élevage, c'est pas les éleveurs qui vont toucher les aides européennes, c'est les groupes intégrateurs. C'est par exemple en volaille un groupe comme Doux. Doux donc a été le plus grand groupe de volaille européen pendant des années, qui a connu des heures moins glorieuses depuis 2013, qui est reparti grâce à l'argent public à nouveau dans une logique de croissance folle depuis 2015. C'est ces grands groupes-là, intégrateurs des éleveurs, qui touchaient les fonds européens. Et c'est ces fonds européens qui ont permis la mise en place de ces énormes empires, quoi. Sans ça, en fait, si on était vraiment dans une situation d'économie libérale stricte, il est évident qu'une économie aussi instable, liée aux conditions climatiques, comme l'agriculture, n'aurait pas pu, en fait, aider à la constitution d'empires aussi puissants, quoi. Et notamment l'empire de la Cicade Saint-Paul de Léon, donc empire légumier, est emblématique de ça. Enfin, ces gens-là ont bouffé à tous les râteliers de ce que j'appelle moi l'administration Providence, que ce soit en cas de surproduction, des aides à la destruction de leur surproduction, qui du coup se constitue une aide à double effet, c'est-à-dire que quand ils sont en surproduction, ils touchent des aides pour détruire, donc c'est de l'argent qui touche direct de l'État, et le fait de détruire fait que le prix ne baisse pas, parce qu'il n'y a plus de surproduction. Donc en fait, ils touchent deux fois par le prix garanti et par la destruction rémunérée de leur surplus.
Les exploitations de la SICA de Saint-Paul-de-Léon sont situées dans le Nord Finistère, notamment au niveau de ce qu'on appelle la ceinture dorée. C'est un endroit qui s'étend de la pointe de Brest jusqu'au Trégor.
Oui, la région de Saint-Paul-de-Léon produit chaque année plus de 100 000 tonnes d'artichauts, près de 100 millions de têtes de chou-fleurs. Mais les nécessités climatiques imposent à certaines époques des récoltes accélérées, d'où afflux sur le marché, ce qui correspondait autrefois à la catastrophe. Les cours s'effondraient et les cultivateurs s'en allaient la mort dans l'âme déverser leurs richesses à la décharge publique. Qu'on se souvienne, un jour de juin 61, une troupe de paysans investit la sous-préfecture de Morlaix. À leur tête, un jeune leader syndicaliste, Alexis Gourvenec.
Vous revenez d'Amérique. Qu'est-ce qui vous a frappé en Amérique ?
Sur le plan économique, ce qui m'a le plus frappé aux USA, c'est le degré de concentration auquel ils sont parvenus, tant en matière de production agricole qu'en matière d'unité de transformation et de commercialisation des produits agricoles. C'est certainement l'élément prépondérant à l'heure actuelle de l'agriculture des États-Unis, et c'est également ce qui explique pour une part leur prix de revient relativement bas par rapport à ceux de l'agriculture française.
De cette concentration, de cette nécessité de commercialiser au mieux, s'est inspirée aussi l'utilisation des surplus et des retraits de marchandises en période de surproduction. Surgélation ou encore traitement à façon des fonds savoureux d'artichaut.
En fait, nous avions essayé de projeter le Nord Finistère à l'horizon 85. On en est venu à 5 propositions. Et toutes les 5 propositions tournaient autour d'une même et seule préoccupation, qu'on avait baptisé le désenclavement. Le désenclavement routier, le désenclavement au niveau des télécoms. Une université à Brest, il n'y a pas de région prospère sans université et sans instruments de recherche. Une plateforme industrielle à Brest, et enfin, bien sûr, la création à Roscoff d'un port en eau profonde.
La principale fierté de produire des légumes qui sont vendus sous la marque Prince de Bretagne, c'est que où que l'on aille en France ou en Europe, on voit nos produits partout. Et c'est valorisant à nos yeux. Et ça nous permet de nous dire que nous faisons de la qualité.
Le système impose certaines disciplines, se plier au règlement, accepter de ne pas participer à la vente certains jours d'affluence, cotiser à la caisse de soutien des cours. Cette discipline est librement consentie, librement acceptée, pour une raison bien simple, elle donne de bons résultats.
Les producteurs ne nous suivent pas, et ceci s'explique très facilement. Tout d'abord parce que l'unanimité, c'est un phénomène qui n'existe pas. C'est un phénomène qui n'existe pas dans une population agricole forte de quelque chose comme 6500 ou 7000 agriculteurs. C'est la raison pour laquelle à peu près 15% de la production se refuse encore à rallier notre système, à peu près 15% de la production se refuse à respecter toute discipline de mise en marché. Or, il n'en demeure pas moins vrai que si hier l'agriculteur pouvait se payer le luxe, permettez-moi l'expression, de vivre en agriculteur isolé, l'avenir pourtant n'appartiendra qu'aux agriculteurs groupés, aux agriculteurs qui contrôleront leur marché, aux agriculteurs qui maîtriseront leur production sur toute la ligne.
Pour conclure, le principal atout de la SICA de Saint-Paul-de-Léon est de laisser le pouvoir aux producteurs qui décide des grandes orientations de la coopérative, et ceci toujours dans le but de préserver le revenu du producteur.
Ce qu'on appelle colère paysanne très récurrente depuis des décennies et qu'on a vu réapparaître de manière très violente ces dernières années, pour moi, ça c'est un spectacle en fait. Il y a une part de sincérité dans les gens qui sont dans la rue, dans les gens qui brûlent, qui cassent. C'est évident qu'une bonne partie d'entre eux sont à l'agonie, enfin, en tout cas sont à un tel niveau d'endettement sans pouvoir payer les traites qu'ils sont dans un état de stress terrible. Mais la mise en scène, enfin, il y a derrière cette sincérité une mise en scène qui existe, on va dire, depuis la création de la FNSEA, qui est liée à, enfin, qui est possible parce que, étrangement, malgré les inégalités de situation économique dans le monde paysan, la FNSEA a réussi à créer, en tout cas jusque dans les années 70, une unité paysanne assez forte autour de valeurs communes qui étaient de plus en plus désuètes, qui étaient, enfin, les valeurs communes faisaient référence à une civilisation paysanne déjà morte, mais elle tenait quand même une unité, en fait, et que du coup, cette unité-là, culturelle, idéologique, elle a permis que continuent à se vivre des inégalités sans que les gens qui en sont victimes s'en aperçoivent et refusent, en fait, de rentrer dans ces spectacles des colères paysannes qui n'ont, depuis les années 60, qu'un seul objectif, c'est maintenir les privilèges de quelques-uns, absolument pas résoudre le problème de la grande masse des producteurs surendettés. Mais aujourd'hui, quand on voit les éleveurs de cochons sortir dans la rue et tout cramer sur leur passage, tout casser, ça reste hallucinant, parce que, et de le faire sous la bannière FNSEA, sous la bannière tenue par Xavier Belin, le type même qui les exploite tous les jours, quoi. Et le comble a été même atteint début 2016, en printemps agité dans le reste de la France. Un des rares endroits qui a connu des grèves en Bretagne, c'est les abattoirs de la Coperne, et du coup qui ont été bloqués par les salariés pendant des jours, voire des semaines. Le comble, c'est le conseil d'administration qui tient complètement économiquement les milliers d'éleveurs qui sont adhérents, ont réussi à motiver ces éleveurs surexploités pour aller venir avec leur tracteur virer manu militari les salariés qui bloquaient l'usine. C'est les combles de l'exploitation, quoi. On utilise les surexploités pour s'en prendre aux surexploités, quoi, qui sont les salariés d'un abattoir. Enfin, la plupart sont maliens, nigériens d'ailleurs. Enfin, c'était déjà extraordinaire qu'il y ait un mouvement social à cet endroit-là. Mais on voit à quel point, en fait, ces colères n'ont plus, ne trouvent plus de cible pertinente, n'osent plus, en fait, affirmer un ennemi, quoi. Et à chaque fois, en fait, c'est vraiment ce que j'appelle le spectacle des victimes, en fait. C'est que la manière dont se reconnaissent les éleveurs en colère, en fait, c'est essentiellement en tant que victimes. De quoi ils sont plus capables de le dire. Mais ce qui est extraordinaire dans la posture d'une victime, c'est qu'elle ne cherche pas la vengeance, elle ne cherche pas à retrouver sa liberté ou une certaine forme d'égalité, elle demande réparation. Et à nouveau, qui vient comme entité qui vient instaurer la réparation des préjudices subis, c'est l'État.
Tiennent en joue, on est la cible. Tout ce qu'on veut, c'est vivre de nos mains. Nos bêtes au grand air sur des terres à visage humain. On regarde jamais en arrière, car c'est devant qu'est la lumière. Ensemble, c'est sûr, on pourra faire. Sauf si on nous mène à la misère, c'est pourtant nous qui nourrissons la France. On n'en veut pas des chaînes de dépendance. Paysans, nous sommes fiers d'être paysans. Nous sommes libres d'être paysans. Nous sommes dignes et debout, les paysans, les paysans. Nous sommes jeunes et paysans. Nous sommes innovants et paysans. Nous sommes dignes et debout, les paysans.
La bourgeoisie agricole aujourd'hui, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir économique et ceux qui s'en sortent systématiquement en cas de crise, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont diversifié leur économie et quand on cherche à suivre le chemin de cette diversification, il ne faut pas aller bien loin. Il suffit de regarder quelle économie est administrée, c'est-à-dire soutenue par les fonds publics. Donc c'est l'immobilier, aujourd'hui encore plus que jamais soutenu par les fonds d'aide à la rénovation écologique. Il y a l'économie de l'énergie, la production énergétique, c'est devenu absolument colossal, notamment en Bretagne, qui est en avance un peu sur tout le monde, en retard sur l'Allemagne, mais l'économie allemande est le modèle aujourd'hui que suit l'agriculture bretonne, en se diversifiant sur panneaux solaires sur les hangars, éoliennes dans les champs et méthanisation pour produire du biogaz qui va soit aller pour des chaufferies de grandes collectivités, soit produire de l'énergie et rentrer dans le réseau. Du coup, ce qui fait que le producteur industriel aujourd'hui diversifie ses sources de revenus et est devenu essentiellement un capitaliste de la production énergétique, quoi. Ce qui qualifie pour moi le mieux la situation de l'agriculteur aujourd'hui, c'est que c'est un capitaliste surendetté et surexploité dans sa force de travail par ses chaînes d'intégration dont il maîtrise rien du tout, en fait. Le comble aujourd'hui, en fait, du système, c'est que l'ensemble des aides publiques versées à l'agriculture ne sont là que pour une seule chose. C'est pour l'instant même pas trop assurer un revenu à l'agriculteur, mais c'est assurer le remboursement des emprunts pour que les banques s'en sortent tranquillement et qu'on continue la course à l'innovation technologique et à l'investissement. Produire de la denrée alimentaire, c'est presque un effet secondaire de cette industrie de la technologie agricole, quoi. Dès l'instant où tu dépasses un cheptel de 50 vaches ou tu as plus de 2 hectares de maraîchage, ou tu as des tels volumes de ventes, en fait, que tu vas te laisser prendre forcément dans une logique qui t'échappe. Je pense que c'est forcément en démantelant, en fait, ces fermes-là qu'on pourra commencer à penser à des formes de résistance et de solidarité qui fabriquent un sentiment de puissance, quoi, de prendre prise sur nos vies.
On s'aperçoit que dès qu'on a des problèmes, on n'est plus défendable, c'est quand on n'a plus le même rythme de vie que le paysan moyen, quoi. Dès qu'on se lève un peu tard ou dès qu'on n'a pas un programme une journée bien réglée, si ça correspond pas à ce que vive le paysan, le paysan moyen, bon ben on n'est plus défendable, quoi. Ou bien alors si on donne plus d'importance à son jardin ou au fait de garder ses gosses ou de faire la vaisselle ou qu'on donne à son boulot, bon ben on n'est plus défendable, quoi. Je pense que c'est actuellement le gros problème sur lequel on bloque avec le syndicat, quoi. C'est qu'il est d'accord de te défendre à condition que tu restes dans une certaine ligne, quoi, que tu sois crédible au niveau paysan. Si tu remets en cause un tas de choses comme les horaires ou les façons de rapport avec les bêtes, la qualité de ton produit, parce que le paysan, lui, le syndicaliste, quoi, c'est pas ça qui l'intéresse dans le moment, c'est la défense de son revenu, quoi.
Tellement rare à se satisfaire d'être sur 2 hectares et de voir même faire moins et d'épaissir les relations locales, quoi, d'arrêter d'être dans une pure relation commerciale. La perte d'autonomie, elle va de pair avec la perte de la communauté, quoi, en fait. C'est qu'à un moment donné, le paysan, il est seul dans sa ferme. Il n'y a plus de lien de solidarité, il n'y a plus que des liens économiques, quoi, entre les gens, et même... Même dans le travail d'entraide, inévitable encore aujourd'hui, il est comptabilisé de partout, quoi. Il n'y a plus la simplicité, et puis il est rare. Enfin, mais c'est évident qu'au moment des moissons, par exemple, un paysan ne peut pas le faire seul. Donc la plupart du temps, il le fait avec une entreprise de travaux agricoles, mais même l'entreprise de travaux agricoles, ça ne suffit pas. Donc il faut forcément compter sur le voisin. Donc il y a encore des solidarités, mais elles sont tellement minimes et tellement liées à des choses très particulières, à un moment très précis de l'année. Et voilà, bon, les autres formes de solidarité qui existent, c'est toujours l'écuma, en fait, la mise en commun de matériel agricole, mais c'est une telle gamme. C'est ahurissant le virage qu'on. Enfin, le virage, il n'y a pas de virage, le chemin qu'a poursuivi l'écuma. Aujourd'hui, c'est des endroits d'investissement les plus modernes en matériel agricole, quoi. Et pourquoi ? Pourquoi ? Alors certes, l'endettement est réparti entre tout le monde, c'est plus intelligent que d'investir tout seul, mais pourquoi des tracteurs de 200 chevaux ? Pourquoi le semoir combiné dernier cri qui fait tout en 24 heures de retourner la terre à semer sur 20 hectares. Enfin, c'est du délire aujourd'hui, l'investissement. Et il y a une vraie, pour moi, antinomie entre l'autonomie du paysan et l'automatisation du travail, quoi. Enfin, je vois bien que je parais un extraterrestre dans mon vocabulaire dès que je parle de ma vie paysanne, quoi, en fait. Cette vie avec les animaux, tranquille, complètement. Enfin, je suis pris dedans. Mais je suis bien plus pris aujourd'hui dans les relations avec les végétaux et les animaux qu'avec l'économie capitaliste. Il y a des obligations auxquelles on ne peut pas s'abstraire. Mais je ne suis pas tous les jours à penser à l'optimisation économique. Parce qu'il y a des maraîchers bio, ils en sont là, ils gèrent tout sur tableau Excel. Donc là, la carotte, ça me rapporte tant à l'année, c'est ramené à l'heure de travail, c'est tant, donc bon, peut-être je vais plutôt arrêter les carottes, c'est pas assez rentable par rapport au temps de travail. Donc les types sont rendus à gérer, à optimiser comme ça leur parcelle, ils ont beau faire 30 légumes, en fait tout est pensé sur l'optimisation des gestes de travail. Enfin, il n'y a plus aucune poésie, quoi, c'est fini. Le paysan est un pur gestionnaire du vivant, quoi. C'est la disparition du travail humain. Au profit de l'électronique et des robots. Et ce qu'en gagne le paysan, c'est de perdre en pénibilité. Mais il perd aussi le sens de cette activité. Et puis c'est surtout qu'il n'y a plus de paysan, quoi, en fait. Et qu'il n'y a plus qu'une économie spéculative où les empires agroalimentaires continuent à jouer sur le marché mondial avec les denrées alimentaires, quoi. Et voilà, et je vois bien que cette logique-là, elle est partout, quoi. Et elle va aussi vite dans la bio que dans une grosse exploitation d'élevage hors sol ou céréalière, quoi. Ça va aller de plus en plus vite, parce que là, par exemple, à nouveau, une forme d'intervention de l'État dans l'agriculture bio, notamment. Il y a une loi en France qui vient de passer qui impose, c'est plus de 20% d'approvisionnement en bio dans toutes les cantines scolaires et compagnie. La bio existante est loin de pouvoir y répondre, donc c'est magnifique, on va monter tout sur place. Là, on vient d'être invité à une journée démonstration sous forme de speed dating pour se porter candidat à livrer des carottes à la restauration hors domicile. Ça, ce moment-là a lieu dans une ferme hyper moderne en bio. C'est une ferme de 60 hectares, je crois, qui fait de la monoculture de carottes sur 20 hectares, de poireaux sur 20 hectares. Donc on va avoir une magnifique démonstration de matériel, de comment faire de la bio sans humain, et comment faire de la bio comme on fait de la chimie, quoi, en fait. Certes, il n'y a pas de pesticides, mais c'est des investissements de fou, quoi. Et là, à nouveau, derrière ça, c'est le Crédit Agricole, quoi. On est dans de la production de masse. Il n'y a plus aucune logique paysanne derrière.
Encaustique, pneumatique, le fric. Pragmatique, névralgique, le flic. Sophistique, sulfurique, explique. Je divague, ce n'est pas grave, c'est un gag, je me gave de moi. Il est beau, il est laid, il est. Il est vrai, il est faux, il fait. Empirique, fatidique, unique. Je divague, ce n'est pas grave, c'est un gag, je me gave de moi.
Les prix, qui sont le point commun de tout le monde, on vit tous les mêmes prix, ces prix-là, c'est eux qui homogénéisent la forme de production, quoi. Quand tu dois t'aligner sur produire des carottes à 1,20€, il n'y a pas 36 000 le kilo, il n'y a pas 36 000 manières de le faire. Enfin, et nous, travaillons à la main, on survit en vendant à 2€ le kilo, mais face à des technologies hyper modernes de mécanisation totale de la culture de carottes en bio, bah, t'es sûr qu'on va atteindre très vite le niveau d'1€, 1,20€ le kilo de carottes, bah, ça nous fait disparaître. T'as beau avoir des AMAP, des réseaux locaux de consommation, si à côté les prix sont deux fois moindres, ça tient pas longtemps, quoi. Parce que tant qu'on n'aura pas changé la rémunération, enfin le prix, les prix, tant que les prix colleront à une logique industrielle, travailler manuellement, c'est sûr, c'est s'assurer une pénibilité du travail colossale. Donc forcément que même les plus petits restent happés par l'appel de l'innovation technologique, par simplifier le travail, l'automatiser. C'est évident, quand tu as désherbé 10 ans de ta vie des carottes toute l'année, je peux comprendre le robot de traite, la forme de libération qu'il représente quoi, dans la contrainte quotidienne. Mais en même temps, c'est d'autres contraintes qui arrivent, de l'endettement, d'un boulot vidé de sens, parce que désherber les carottes, en fait, c'est un problème quand on est pris dans cette économie-là, qu'on doit en produire 2 tonnes ou 3 tonnes par an pour gagner 3 francs 6 sous. Et je pense notamment, moi qui suis maraîcher, à ce nouvel outil révolutionnaire qui s'appelle le robot ramasseur désherbeur, qui est un robot bon à tout faire. Bah c'est ce robot là qui coûte la modique somme entre 35 et 50 000 euros à acheter, donc qui vient alourdir le capital d'exploitation et l'endettement de n'importe quel maraîcher. Et ben en fait il est pris en charge grâce aux multiples aides à l'investissement dans la rénovation écologique de toute l'industrie française. Il est pris en charge entre 25 000 et 45 000 euros, 40 000 euros. En fonction du coût initial. Quoi. On est vraiment à nouveau, enfin toujours dans cette économie administrée, et qui a comme point commun d'alourdir le capital d'exploitation en permanence et de supprimer les paysans. Parce qu'un robot, c'est quand même une quantité de travailleurs de la terre en moins non négligeable. Et là, j'ai jamais vu autant la gauche paysanne est capable de s'offusquer contre eux. Le gigantisme de la ferme des 1000 vaches, parce que c'est un exemple flagrant, très facile à se scandaliser de ça, mais qui se scandalise de ce soutien à l'investissement colossal dans du matériel qui remplace le paysan, quoi. Moi, qui ai bossé à la Confédération paysanne il y a presque 20 ans, qu'à l'époque on disait. On essayait de défendre l'installation de jeunes agriculteurs avec 100 000 litres de quota en vaches laitières. Et j'entendais cet imbécile de Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, l'autre jour, suivant logiquement l'ère du temps et le progrès, dire qu'aujourd'hui il faut défendre l'installation d'éleveurs laitiers en vaches avec 260 000 litres de quota. Donc ces gens-là ne font qu'accompagner le fatalisme ambiant d'un progrès, du gigantisme permanent. Tu peux aller t'en prendre à la ferme des 1000 vaches après, mais le problème est déjà d'accepter des fermes de 260 000 litres de lait. Enfin, je trouve cette phrase de Bernard Lambert, plus jamais les paysans ne seront des Versaillais, c'est-à-dire, entendu, plus jamais les paysans ne seront au service de l'État. L'ironie de l'histoire, c'est que cette gauche paysanne-là s'est entièrement fondue dans l'administration agricole depuis l'arrivée de Jospin au pouvoir en 1997, et qu'elle est aujourd'hui le relais de cette agriculture administrée, dont elle tire les bénéfices, et ça il faut en avoir bien conscience, d'une manière différente de Xavier Belin et des légumiers de la SICA de Saint-Paul, mais cette administration de l'alimentation de masse finance aujourd'hui autant ces gros empires agroalimentaires que cette agriculture dite écologique à forte valeur ajoutée, dont se réclame la gauche paysanne dans son ensemble, que ce soit la Confédération paysanne ou les mouvements de la bio, pour retrouver un esprit de résistance face à cette industrialisation de l'agriculture et face à cette économie administrée. On a besoin de rompre avec cette histoire de la gauche paysanne, parce qu'elle s'est tellement fourvoyée dans les dédales de cette administration, elle a tellement pris place au cœur même de cette administration, et elle en vit tellement aujourd'hui, que c'est ailleurs qu'il faut trouver ces énergies de résistance, quoi. Et qu'il faudra aussi, pour moi, rompre avec l'histoire de l'écologisme, parce que l'écologisme aujourd'hui en agriculture est devenu l'argument de rénovation technologique de l'agriculture, et c'est l'argument capitaliste par excellence aujourd'hui, quoi.
Au pré avec sa mère, le poulain de 3 jours tangue sur ses pattes. La seringue pénètre sous la peau du cou. Injection rapide et indolore. Le vétérinaire vérifie son lecteur portable. Le numéro d'identification s'inscrit à l'écran. La puce est opérationnelle. Le lecteur transmet directement les données à l'ordinateur. Date de naissance, sexe, numéro des géniteurs, vaccination, allaitement, etc. Il sera désormais simple, en consultant les bases de données, d'assurer un suivi sanitaire rigoureux, de vérifier qui est le propriétaire du poulain et, en le scannant avec un lecteur portable, de l'identifier à tout moment. L'animal est entré dans le système. Il a le droit d'exister.
Trouver des résistances aujourd'hui, par exemple, à cette modernisation des pratiques du travail de la terre, enfin, la place de plus en plus conséquente de l'électronique et du coup de l'automatisation des tâches, en fait. C'est dur d'y voir, de trouver de la résistance, parce que c'est vrai que les gens ont été abîmés par le travail très physique que pouvait être travailler la terre. Mais c'est d'autant plus compliqué à trouver cette résistance que quand on se met à travailler la terre et qu'on se laisse prendre, même en étant petit, toi, par exemple maraîcher bio sur 2 hectares, en effet, c'est très, si on se laisse prendre dans cette économie, à vouloir être rémunéré par la vente de carottes, de tomates, en effet, on s'abîme la santé de manière folle, quoi, en fait. Donc il faut trouver d'autres combines, en fait. Et que c'est un gros boulot, c'est un boulot énorme, mais je pense qu'il n'y a que des bricolages dans la marge à apprendre, à s'autonomiser et à vivre sans ces subsides publics qui peuvent donner la niaque pour... qu'il y a encore suffisamment de gens à bricoler dans leur coin, attachés à une certaine autonomie et une liberté, pour se dire, voilà, il y a encore du monde à être capable de voir que l'État, c'est l'ennemi, quoi, en fait, et que cette agriculture administrée, on n'en veut pas, quoi. Voilà, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'on arrive à monter un mouvement un peu conséquent, capable d'affaiblir un peu cette administration. Il y avait eu les bribes de quelque chose dans cet état d'esprit autour de l'opposition au puçage des brebis, le puçage électronique des brebis et des chèvres, où là, enfin, on voyait un mouvement s'en prendre directement à l'intervention publique et aux obligations administratives. Mais d'une part, c'est resté très marginal, et on est loin de circonscrire, avec cette réglementation, on est loin de circonscrire l'ensemble de l'intervention publique sur le monde agricole, quoi, enfin, qui est tellement vaste. Moi, je vois bien... autour de notre ferme, là, il y a ça fourmille de plein de petits engagements dans le travail de la terre, qui se donnent pas beaucoup d'ambition au départ, qui tâtonnent, mais voilà, qui savent jouer aussi avec la situation telle qu'elle est, en prenant du RSA à droite à gauche, en refusant l'endettement, l'investissement tout azimut. Ça n'empêche pas d'être exploité dans son travail de la terre, parce qu'on est très mal rémunéré, mais on avance à petite échelle Enfin, on se rend bien compte que dès l'instant où on mutualise dans ces petits bricolages, chacun dans son coin, dès qu'on mutualise des trucs, il y a une puissance énorme qui émerge, qui donne envie, et je pense qu'il faut repartir de là. Je pense que ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes est du même ordre, cette occupation sauvage de terre, où les gens sont en train de réapprendre l'agriculture à partir de quasiment rien, dans des situations hyper précaires. Les gens, je pense, apprennent à faire avec peu de choses, et dans des formes d'autonomie, de solidarité locale, qui peuvent que être chouettes. Après, on s'y abîme, il faut faire gaffe, en fait. J'ai vécu des galères au début en étant quelque part trop petit ou trop peu ambitieux, entre guillemets, enfin, en voulant faire les choses trop sous la mode primitiviste, où tu reviens trop loin en arrière, où tu n'utilises même pas le tracteur. Enfin, je pense qu'il faut être assez intelligent là-dedans pour pas s'abîmer non plus. Mais du coup, voilà, c'est aussi construire... des solidarités à construire avec les gens qui bouffent tes légumes, tes agneaux, qui aillent au-delà de juste un pur rapport marchand, quoi, de commerce. Nous, par exemple, sur notre ferme, là, les carottes, on sait que c'est un peu le travail pénible de l'année, qui est assez saisonnier d'ailleurs, c'est pas toute l'année, ça va être 4 mois de l'année où il y a un gros travail de désherbage et de ramassage. Mais alors, nous, on essaye d'inviter, en fait, les gens qui nous achètent habituellement des légumes, de venir nous donner des coups de main, et pour pas perdre la richesse de ce travail-là non plus, parce que, pour moi, c'est un vrai plaisir de travailler à la main, en fait, travailler à la main, ou avec des petits outils, des outils à main, ou même des vieux outils de tracteur, c'est un vrai plaisir. Enfin, t'as encore le sentiment d'être au contact du végétal, de la terre, de sentir ce que tu fais, de le faire intelligemment ou pas, enfin, d'être maître en fait de la manière dont tu envisages le travail du sol. Et dès l'instant où tu pars sur de la haute technologie, en fait, le truc il est automatisé. Enfin, t'as plus d'intervention dessus. Et du coup, il y a des bricolages à inventer pour garder cette richesse du travail manuel qui ne soit pas un travail d'esclave, quoi. Et ça, c'est très très compliqué. Il faut, je pense, pour ça, retrouver un peu l'esprit des paysans travailleurs qui étaient capables, dans les années 70, de se scandaliser de l'exploitation du travail de la terre et pas juste de l'exploitation de la terre. Aujourd'hui, on voit tous les bio et la gauche paysanne s'offusquer de la pollution et compagnie. Mais qui s'offusque qu'un maraîcher bio soit contraint aujourd'hui de bosser 14 heures par jour pendant 5 mois dans l'année pour gagner, être rémunéré, mais à peine 1 euro de l'heure, quoi. Enfin, et il y a tout à reconstruire, quoi, d'une histoire politique, d'une conscience, de ce cheminement, de ces chemins très tordus de l'exploitation du travail de la terre, quoi.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
C'était Yannick Ogor. Vous retrouverez son propos dans un livre à paraître toute fin 2016 ou début 2017 aux éditions du Bout de la Ville. L'administration de l'alimentation de masse. Vous avez entendu des éléments sonores de Biquefar et Farobik, deux films de Georges Rouquier, de Cochon qui s'en dédie, de Jean-Louis Le Tacon, et un montage de films publicitaires de la SICA de Saint-Paul-de-Léon et d'un reportage de Louis-Marie Coïc de 1964 pour le compte de l'ORTF. Les musiques sont de Georges Brassens, Pauvre Martin, un extrait de la chanson réalisée pour le 50e congrès des syndicats jeunes agriculteurs, fiers d'être paysans, Areski et Brigitte Fontaine, en caustique, et enfin, Daniel Viglietti, A desalambrar.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.